repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Bonjour, Marc. Comment vas-tu?
Écoute, la neige, quand elle tombe, elle fond, elle retombe, oui. Elle refond.
Il y a de la neige chez toi?
Ouf. Pas plus qu'ici à Lausanne. Hein.
Oui, à Lausanne, il n'y a presque plus rien. La neige
ouais,
fond.
Oui, tout a fondu.
La
là.
Neige fond, mais ma foi, elle revient, elle va et revient. Et puis, on est en hiver.
Ouais. Et on est fin janvier seulement.
Exactement, mais c'est une saison qui est propice à la lecture, justement.
Donc. Alors donc, j'imagine que tu vas nous sortir deux, trois trucs de la liste. Là.
Absolument, la liste, comme d'habitude. On a notre jolie brochette de polars de tout type, de tout genre, mais comme... c'est un genre qui est très demandé, qui est très connu. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Et on va essayer justement de faire sortir de l'ombre des livres un petit peu moins, attirants à première vue, mais qui seraient de toute façon extrêmement intéressants une fois qu'on s'y plonge. Et pour commencer, je vais parler d'un livre, dont l'auteur est évidemment très connu, là pour le coup. Sauf qu'il est plus des nôtres, enfin, vivant. Depuis, on dirait, quelques longues décennies. Et il s'appelle Alexandre Dumas, donc le père Alexandre Dumas. Et il se trouve qu'Alexandre Dumas a écrit un livre qu'étonnamment n'avait jamais été publié, en tout cas au XXe siècle, en version intégrale. La première fois qu'il est publié, donc il a été publié en 2018, et... Et puis, c'est un livre qui est dans le même environnement que les Trois Mousquetaires. Et il s'appelle L'Esphinx Rouge. Et dans ce livre, et aussi palpitant et passionnant que les Trois Mousquetaires, que 20 ans après, pour ceux qui aiment ce genre de littérature, dans lequel il y a l'histoire, il y a de l'aventure et pas mal de rebondissements. Alors, évidemment, il y a les cardinaux de Richelieu, évidemment, toujours en train de manigancer pour affermir son pouvoir. Il y a la recherche des assassins du roi Henri IV. Et il y a des questions des stratégiques des guerres, des conquêtes de la France. Et il y a la recherche d'un héritier pour la France, pour le trône de la France. Et donc, là, c'est dans toute cette problématique du 17e siècle, et dans lesquels se déroulent aussi les Trois Mousquetaires, qui se déroulent ce livre, qui est aussi un classique d'Alexandre Dumas, L'Esphinx Rouge, qui est disponible avec les numéros 39268. Et dans l'histoire toujours, mais quelqu'un un petit peu moins connu qui est Monsieur Dumas, on a Stefan Hermans, qui est un auteur de langue allemande, mais qui écrit un livre qui va se dérouler en France, mais qui va se dérouler en France pendant le XIe siècle. Et puis, c'est une histoire vraie, à la base. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire, imagine... Cette époque-là, c'est l'époque aussi, il y a les croisades, il y a, tu vois, ces Moyen-Âge un peu bourru, comme ça.
Un peu obscur.
Et il y a une histoire qui est vraie, qui est réelle, et l'auteur l'a découverte en faisant des recherches. Dans une époque très improbable, pour ce que je veux dire, une jeune fille, une belle jeune fille, la belle Vigdis, aux yeux bleus, elle tombe amoureuse de David. Alors, c'était qui, David? C'était pas un chevalier, un noble. C'était un étudiant, un juif, étudiant d'une école talmudique à Rouen, en l'an du Seigneur de 1028. Alors, tu imagines ce que ça fait à l'époque. Déjà que maintenant, ça peut éventuellement poser problème. Alors, cette femme, c'est une fille de bonne famille, famille noble française, tombe amoureuse de ces juifs de classe à plus modeste. Elle s'est convertie au judaïsme. Elle prend un autre nom. Ils doivent s'enfuir. Les pères envoient des chevaliers à leur poursuite. Bref, mais elles arrivent quand même à vivre ensemble à un moment donné. Ils ont des enfants. Et à un moment donné, ils ont découvert. Les enfants sont pris, les grands par les... Les gens sont des empereurs ou des chevaliers. Et puis, il y a toute une histoire qui se poursuit, dans laquelle, d'une manière tout à fait virtueuse, l'auteur Hermans combine sa propre quête, donc sa propre recherche de ce qui s'est passé vraiment, avec l'histoire qui était en train de se passer à l'époque. Et donc, c'est un livre qui je suis certain, va... plaire à un certain nombre, en tout cas un grand nombre de nos auditrices et auditeurs, car elle combine histoire d'amour, roman historique, roman d'aventure et quête et recherche historique. Donc c'est un livre qui mérite notre attention et il s'appelle Le cœur converti avec les numéros 39265. Voilà pour ça. Puis il y a un autre livre qui, là justement, je m'écarte un petit peu des romans. Mais par contre, celui-ci, il est aussi, ou pourrait être aussi passionnant qu'un roman, puisque c'est une histoire d'un produit que certains, tu aimes peut-être, parfois, beaucoup de monde aime, qui est l'écurie. Alors, on aime les poulets au curry ou les légumes pour les végétariens. Et les livres, c'est incroyable parce que, à partir de ça, à partir du curry, d'ailleurs, le livre s'appelle Une histoire gastronomique de l'Inde, faite par un Britannique qui s'appelle Lizzie Collingham. Et elle va retracer l'histoire de l'Inde à partir de la cuisine. Partir de la gastronomie, et on va découvrir, entre autres, que l'écurie telle qu'on les connaît, c'est une invention européenne. C'est pas les Indiens. Ils ont beaucoup d'épices, bien entendu, beaucoup de mélanges, mais l'écurie, comme ça, fixée telle qu'on les connaît, c'est plutôt un regard européen. Et par contre, ça parle de l'histoire, de toutes ces influences culinaires. Il y avait les Persans, enfin, les Portugais, les Anglais, après, il y a un petit peu tout petit peu les Hollandais et les Français. Et donc là, on voit dans ce livre aussi bien toute cette histoire qui se met en marche. On a des recettes de cuisine et on a aussi des anecdotes assez drôles comme l'histoire de Gandhi, par exemple, pendant sa période, mon Gandhi, en tant que hindou pratiquant, etc., était végétarien. On essaye de les convaincre que si il mange de la viande, il aura plus de force pour lutter contre les Anglais, pour vaincre les Anglais. Et on apprendra aussi que la reine Victoria, on connaît la période victorienne en Angleterre. Mais cette reine Victoria, comme ça, si bien, si Gandhi comme ça, elle était folle de son beau secrétaire indien de 24 ans. On est déjà dans la littérature un peu des salles d'attente, mais non, ça c'est des petits détails, mais le livre lui-même, il est passionnant par rapport à toutes ces histoires, tous ces mélanges entre l'histoire avec un H majuscule et puis les histoires, les petites histoires, et puis évidemment l'histoire culinaire, gastronomique. C'est très axé sur la gastronomie et sur la nourriture. C'est pour ça qu'il y aura la particularité, j'ai cité, mais je dis, bon, on va titiller un petit peu nos auditeurs, je l'ai mis dans la partie cuisine et alimentation, alors que ça aurait pu être aussi dans histoire, mais je vais voir ce que ça donnait un petit peu. Donc voilà, il y a de la gastronomie, il y a des recettes de cuisine et il y a de l'histoire, et je suis certain que, en tout cas, même si on ne s'intéresse pas à l'histoire, on va trouver au moins une recette de cuisine à faire avec ce livre de Lizzie Collingham qui porte les numéros 39248. Voilà. Et pour finir, en fait, je voulais faire un petit peu de pied de nez à Platon, parce que quand on a parlé des... Oui.
Tu oses.
Oui, puisque de toute façon, ça fait des... pas mal de siècles, depuis le 5e siècle avant notre ère, qui est, n'est plus là, qui n'est plus de nôtre. Mais on a parlé dans notre sélection de la République de Platon, dans laquelle les poètes étaient bannis. Les poètes étaient vraiment des êtres nuisibles. Et il se trouve que dans ces numéros du BSR Actualité, on a deux livres de poésie. Et c'est plutôt rare. Je sais que les adeptes de la poésie ne sont pas forcément majorité, mais c'est quand même un domaine dans lequel on peut trouver de la beauté, et de la richesse, et même l'art de la séduction, parfois par les vers, il y en a qui sont sensibles à ça. Mmh. Et donc, là, il y a deux choses, deux livres dans lesquels on peut trouver beaucoup de choses. Il y a un livre plus classique, des poésies françaises, qui va depuis le Moyen-Âge jusqu'à Apollinaire. Mais il y a un autre livre dont je voulais très brièvement parler, c'est un livre des poésies nordiques. On sait bien que les Suédois, les Norvégiens, les Islandais sont des grands poètes, des grands romantiques parfois, et des grands fous parfois aussi, n'est-ce pas? Mais c'est un petit livre qui est très beau, qui a des très beaux poèmes, et le titre c'est « Il pleut des étoiles dans notre lit, cinq poètes du Grand Nord », où il y a justement un poète ou une poétesse danoise, un poète suédois, Thomas Tranströmer, qui a gagné même le prix Nobel en 2011, si je ne m'abuse. Il y a Pentti Holappa, donc il y a des Finlandais, etc. Donc il y a cinq poètes des différents pays nordiques et scandinaves. Aussi. Et puis, il est disponible avec le numéro 39243, un peu de beauté dans ce monde de brutes. Voilà pour notre petite sélection.
Et puis, qu'est-ce qu'on a en production?
Là, en production et en lecture, on a évidemment énormément des romans, des livres de tout genre, et passionnants, plus passionnants les uns que les autres. Alors, il y en a deux dont on reparlera, mais donc je veux déjà titiller nos auditeurs et nos auditrices, et puis aussi informer un petit peu ce qui s'est fait. Alors, on a d'abord le journal intégral de Virginia Woolf, donc cette grande écrivaine britannique qui, bon, malheureusement, a fini à la fin de la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une petite dépression, et puis malheureusement, elle a fini prématurément. Mais c'était une immense auteure, autrice, bien sûr. Et elle a écrit son journal intégral jusqu'à presque le moment de son décès. Et ça risque d'être un des livres les plus longs enregistrés à la Bibliothèque sonore. Je vous en parlerai prochainement. Et à propos de ce livre. Le deuxième, c'est un livre qui vient de paraître avec trois Lascars, trois bons copains qui se sont déjà réunis et qui ont produit un livre aussi qui a eu beaucoup de succès. Et si je t'ai dit André, Ricard et Jolien, ça t'a dit quelque chose probablement.
Oui, oui.
Alors, donc, tu vois bien que ces trois copains, parce qu'ils sont copains, un qui est psychiatre, l'autre qui est philosophe, et l'autre qui est un moine bouddhiste français, et ils se sont réunis. Et pour justement continuer, ils ont déjà fait un livre précédemment et ils se réunissent pour parler de la liberté, de ce qui est la liberté intérieure, ce qui nous empêche de vivre en quelque sorte, et comment pouvons-nous nous en sortir de toutes ces peurs, de tout ce qui nous empêche d'être heureux et de vraiment nous libérer, exister. Donc, c'est un livre joyeux, c'est un livre optimiste. Et qui s'appelle justement « À nous la liberté ». Et il est déjà en lecture. Et donc, je pense qu'avec un peu de chance, pour le numéro prochain, il sera disponible.
Réjouissons-nous.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu as repéré en librairie et qu'est-ce qu'il y a sur ta table?
Il y a tellement de choses. Mais je vais parler même trois livres. Alors, un troisième pour que ça soit un numéro joli et comme ça, bien triangulaire, le numéro 3. Alors, il y a un écrivain danois qui s'appelle Kaspar Colin Nielsen. Et ce gaillard, c'est un sacré personnage. Il écrit un livre. Là aussi, on parlait de dystopie. Là, c'est légèrement dystopique, légèrement sarcastique, légèrement humoristique, et légèrement acide. Et le livre s'appelle a été traduit. Tu sais que les traducteurs français en particulier ont une grande imagination. Et il a été traduit comme sous le titre de Les Outrages. Les Outrages. Et les livres, en réalité, ils s'appellent des Europes, Kuffer, que si j'ai traduit par mes connaissances du danois, s'appelle les printemps européens. Un clin d'œil au printemps arabe, etc. Et puis tout comment cela finit. Mais bref, le livre se déroule au Danemark, dans son futur proche. Alors, le Danemark, un pays pionnier en Europe, a décidé de résoudre les problèmes des réfugiés. Il y a des multiples histoires qui vont converger, mais une des lignes directrices du roman, c'est que le Danemark va résoudre les problèmes des réfugiés d'une manière qui se prétend très ingénieuse. Ils vont louer une grande partie d'un pays, qui est le Mozambique, en Afrique, et qui va avoir un statut diplomatique danois, donc c'est comme si c'était la Danemark, et vont mettre tous les réfugiés là-bas. Comme ça, ils sont en Danemark, sauf qu'en réalité, ils sont en Mozambique.
Et donc, c'est
une chose. Mais après, pourquoi ils font ça? Justement, il y a toute la déliquescence, des rapports qui s'établissent entre les réfugiés. Il y a toute la question, bien sûr, de l'islam lié au nationalisme. Il y a en même temps des recherches scientifiques qui essayent d'implanter des cellules humaines chez les animaux. Et là, il y a deux personnages complètement délirants, complètement loufoques dans le livre qui vont apparaître. C'est un chien et Impi qui deviennent tellement intelligents qu'ils peuvent parler et qu'ils peuvent lire des bouquins et tout ça. Ça apparaît périodiquement dans le livre. On va comprendre après pourquoi ça apparaît. Et en même temps, il y a un galériste d'art et qui est justement le mari de cette femme qui fait des recherches. Il y a leur fille et qui va partir parce qu'elle est comme beaucoup de jeunes, plein d'idéalisme, donc il va partir justement là-bas en Afrique pour aider ces réfugiés qui sont quand même au Danemark, de cette manière, mais qui ne le sont plus. Et donc tout ça est raconté avec beaucoup de sarcasme, d'humour et parfois de deuxième degré. Et c'est un livre très intéressant, donc il s'appelle Les Outrages, il est sur ma table pour celui qui voudra lire. Et puis le deuxième, c'est un livre qui fait un petit peu écho à celui-là, qui est un livre d'un Autrichien qui s'appelle Robert Menassé, grand auteur autrichien, et s'appelle La Capitale. Alors, si tu veux comprendre comment fonctionne l'Union européenne, la Commission européenne, pourquoi ils sont arrivés là où ils sont arrivés, il faut lire ce livre. Là aussi, l'humour et l'ironie et la finesse sont énorme. Et tout ça sous l'apparence d'un léger livre de suspense, thriller, mais en réalité, il y a d'autres enjeux, mais c'est d'une finesse dévastatrice. Alors ça s'appelle La Capitale de Robert Menassé. J'espère que ça va être vite lu chez nous. Et le troisième, c'est un livre qui n'a rien à voir avec ces deux-là, mais qui d'une Française, je vais juste le mentionner brièvement parce que c'est pas un roman. Mais c'est un livre, un documentaire, et d'une Française qui s'appelle Sarah Chiche, qui s'appelle « Une histoire érotique de la psychanalyse de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui ». C'est un livre qui est à la fois agréable à lire, dans lequel on trouve des éléments complexes de la psychanalyse expliqués d'une manière claire et facile, avec des anecdotes extrêmement savoureuse, y compris sur Lacan. Et je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que ça mérite la peine d'être écouté directement. Et ça m'a presque réconcilié avec la psychanalyse en lisant ce livre. C'est écrit de manière très agréable. Et puis, Sarah Chiche, qui n'est pas seulement psychanalyste, mais qui est aussi romancière. D'ailleurs, il y a un de ses romans qui vient de paraître dans cette rentrée littéraire.
Ouais, parce que le titre n'est pas extrêmement engageant. Hein.
Une histoire érotique de la psychanalyse.
Ouais, je...
de la... Oui, c'est vrai. De la... ouais. Je me demande si ce n'est pas l'éditeur qui l'a dit de mettre ce titre-là. Tu sais que maintenant, quand tu mets une histoire érotique de quoi que ce soit, c'est censé être vendeur, théoriquement.
Ouais, ouais.
Voilà, par exemple, s'il avait été publié en France, peut-être que les livres dont j'ai parlé tout à l'heure, ça aurait pu appeler Une histoire érotique de Curry, par exemple.
Ouais, d'accord, bon, d'accord.
Bon, voilà, alors c'est ce trois livres parmi d'autres, bien sûr, des dizaines qui sont sous mon bureau. Voilà.
Bien, ben, merci beaucoup.
Mais écoute,
on se réjouit de voir tout ça.
Mais oui, nos aventures.
À bientôt.
À bientôt.